légal depuis 1981.
Si vous le réussissez, la seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat et pas le capital. Protéger le climat. Et pas le capital, protéger le climat. Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que j'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine sur l'écho de Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Oui, alors pour le mouvement social, on va attendre un peu.
Oui, oui.
Malheureusement, puisque il se passe plus grand chose maintenant. Il y a des trucs, mais c'est vraiment très ponctuel. On en recausera, j'espère, le 7 mars, le 8, le 9, etc. J'espère.
Alors oui, tu l'as dit, hein, c'est la mi-temps, hein, donc on rentre au vestiaire et on reprend des forces pour commencer sur cette, pour aller sur cette magnifique journée de grève générale de un jour, peut-être deux, éventuellement, c'est pas. On a quand même l'impression d'être un peu mené par le bout du nez, mais bon, on l'a dit et redit. Si on ne réagit pas nous-mêmes, il est évident. Qu'on se laissera bananer par l'intersyndicale et par les syndicats. Alors, peut-être que ça commencera un bout ou un autre, on verra bien. Alors, pour justement profiter de cette mi-temps et se rappeler à quel point les mouvements, c'est des choses qui sont positives et qui permettent de changer la vie et de changer sa vie, j'ai choisi de vous faire écouter un témoignage assez fort d'une personne qui s'appelle Sophie, qui s'est engagée à fond dans les Gilets jaunes et qui revient sur son engagement et ce qu'a provoqué le mouvement des Gilets jaunes dans sa vie personnelle et sur sa personne, ce qu'elle est devenue. On l'a souvent dit ici et répété, évidemment il n'y a pas d'avant-garde, il n'y a que des gens qui sont en retard. Et toutes les écoles, toutes les formations politiques, toutes les lectures, si elles sont nécessaires et conseillées, bien sûr, elles ne peuvent rien et elles sont très très faibles par rapport à ce que peut provoquer un mouvement et la suspension du quotidien, la découverte de la responsabilisation de la politique par le concret, c'est-à-dire par la mobilisation de soi-même, la découverte des autres et le fait de pouvoir agir sur sa vie et sur le réel. Et ce témoignage, il est vraiment chouette parce qu'en plus, comme il vient d'une personne qui avait pas forcément de culture politique et militante auparavant, ben il est pas entaché de la larmoyance habituelle qu'on peut avoir chez les gauchistes, nous faisant incarner à l'intérieur. Et voilà, et j'ai trouvé que c'était vraiment bien et motivant. Vous me direz ce que vous en aurez pensé après. d'entendre ça. Je le dis parce que c'est assez rare pour être dit, pour une fois que c'est passé sur une radio publique, hein, il se passe des fois des trucs bien sur les radios publiques. On a piqué cette émission sur une station de radio publique. Voilà, ça dure une vingtaine de minutes. Elle s'appelle Sophie. Elle revient au début. Donc, il y avait une première émission qui avait été faite sur elle pendant son engagement dans les Gilets jaunes, et elle revient 3 ans après sur ce qu'a provoqué son engagement dans sa vie et sur sa conscience.
Plaisir. Nous sommes le 11 avril 2019, en pleine crise des Gilets jaunes, et nous diffusons un reportage enregistré à Saint-Nazaire. 300 délégations de Gilets jaunes ont convergé de toute la France pour leur deuxième assemblée des assemblées. C'est une des tentatives de structurer le mouvement et de réfléchir à sa suite. C'est lors de cet événement que notre collaboratrice Martine Abatte rencontre Sophie Le Parmentier et lui tend le micro. La suite, c'est Sophie qui le dit, est un bouleversement, une émancipation, une libération. Évidemment, pour Sophie, le mal vient de plus loin. Les mots sont déjà là, les ronds-points constituent pour elle une expérience collective et politique libératrice que nous ne faisons que raconter. Il n'empêche. 3 ans plus tard, Sophie est une autre personne, ou du moins, elle a trouvé qui elle était. Sa vie a changé, beaucoup avec les Gilets jaunes. On est retourné la voir parce qu'elle nous a marqué, nous aussi. Sophie, Gilet jaune, 3 ans plus tard par Martine Abad.
Tu vas pouvoir t'asseoir sur le canapé si tu souhaites. Tu veux un café, Martine?
Pourquoi pas?
C'est quand qu'on mange?
Ah bah c'est pas l'heure, mon cœur. C'est pas l'heure, on va manger tout à l'heure, mon cœur.
Il a pris son petit-déj?
Oui, il a pris son petit-déj et tout, mais c'est des mangeurs, mes enfants.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
J'en ai des frissons.
Allez, gilets jaunes, réveillez-vous. Dernier moment pour vous asseoir, s'il vous plaît. On commence dans 2 minutes, tous les délégués dans la maison du peuple.
Tout ça, bah, ma foi, c'est de la belle démocratie vivante et surtout éclectique au possible. Moi, je suis de Tarbes, je suis en train de parler avec quelqu'un de l'Essonne.
De l'Essonne, de Villabé.
Et moi, je viens de Vendée, de Sud-Vendée. Voilà. Prendre un sujet, en faire une synthèse très rapide avec des dessins et le diffuser sur les ronds-points, c'est quelque chose qui éveille les gens, qui leur parle de suite. Là, actuellement, on a fait un track vérité sur la finance et on marque le pourquoi ça a été fait comme ça et où ça veut mener les gens, en fait. Nous prendre pour des débiles, hein, on va dire ça comme ça, c'est très réducteur. Et on a vraiment ce ressenti-là. D'être des laissés pour compte, en fait. Et on n'est pas des laissés pour compte, on est le peuple français. On doit pouvoir être décisionnaire de ce qui nous concerne. C'est nous, le peuple. Alors, je ne dis pas qu'on a les réponses à tout, mais on peut donner des orientations et leur proposer des choses. Et ils ne le prennent pas en considération. Et c'est ça qui est très décevant et qui est très frustrant.
J'ai des frissons.
Vous avez écouté ?
Ouais. Je me rappelle de tout, en fait. Ça me remémore énormément de choses, et de gens que j'ai rencontrés, d'échanges qu'on a eus.
L'exemple parfait de la fausse écologie punitive qui cible les gens qui ne sont pas responsables.
Nous invitons le plus grand nombre à converger vers ce mouvement social écologiste populaire.
Je m'appelle Sophie, j'ai 43 ans, je suis mère de 5 enfants, et accessoirement chariste pour un grand groupe français, conductrice de chariot élévateur. Avant, j'étais préparatrice en pharmacie, mais j'ai arrêté ce métier-là pour d'ordre praticité pour les enfants parce que les horaires ne correspondaient pas. Voilà.
Et là, vos horaires, c'est quoi ?
De nuit, 23h, 6h20 le matin. La journée, ils sont à l'école, je dors. Enfin, dans notre organisation, ça a été la solution la plus plausible, on va dire. Non, c'est un métier alimentaire, hein, je veux dire, c'est un métier pratique pour ma vie quotidienne, mais non, c'est pas quelque chose qui me fait du bien, quoi, en tant qu'être humain. Mais bon, après, il faut bien travailler, hein, parce que c'est un métier d'homme, parce que bon, je fais 1m64, 60 kilos, je suis pas épaisse, quoi. Je suis au froid, enfin bon, je travaille à 2 degrés, produits frais. Avec les horaires de nuit, je tourne entre 1005 et 1006 suivant les mois parce qu'on a des primes de productivité. On a un quota à tenir. Si on le tient, ben, on a la prime. Si on ne le tient pas, ben, on n'a pas la prime. Et après, des hommes qui font 1m80, 110 kg et qui ont une puissance musculaire plus importante que moi, ils sont plus rapides. Donc forcément, c'est plus facile pour eux. En fait, on stocke par notre chariot hein, numéro 5. Chariot élévateur latéral, on a, nous, personnellement.
C'est celui qui a enfoncé la porte du ministère, là, le transplanète.
Ah non, c'est pas le même. C'est ça, c'est un numéro 3, c'est pas tout à fait le même. Et après, on a ce que je vous disais, ce qu'on met en stock, en fait, mais au sol. Ça, c'est avec mes bras, oui. Je viens d'une famille où, de très jeune, on a toujours beaucoup discuté politique, problématique, socio-culturelle, bien que je ne vienne pas d'une famille d'érudits, hein, parce que chez moi, il y a des aides-soignantes, il y a des chauffeurs routiers, les oncles, les grands-oncles, tout ça, ce sont des chauffeurs routiers. Donc, mais on a toujours eu une ouverture d'esprit sur tout ça. Et de très jeune, j'ai toujours été... Je crois que je suis née un peu révolutionnaire, en fait. Et j'ai une mère qui lisait beaucoup, qui avait une bibliothèque très large.
Qu'est-ce qu'elle faisait, elle ?
Ma mère était aide-soignante, de nuit aussi. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que je me suis orientée vers la nuit, moi. Je sais pas, peut-être c'est lié. Donc une maman qui lisait beaucoup, et donc j'avais une bibliothèque avec un accès à la connaissance en général. Voilà.
Et donc quand vous avez vu ces gilets jaunes apparaître, vous vous êtes sentie concernée ?
Alors le premier jour, pas du tout. Parce que mon mari est venu, il m'a dit « bon ben voilà, j'ai fait une réunion ».
Il fait quoi votre mari ?
Mon mari, il est menuisier. Il était salarié, il a été licencié au mois de novembre. Après son licenciement qui s'est très mal passé, dans des conditions un peu délicates. Il avait besoin de s'investir dans quelque chose et il a eu contact avec des personnes de Luçon, là où on habite, qui mettaient en place le 17 novembre. Donc il a été aux réunions qui se passaient sur le parking de Leclerc, Luçon. Et il vient, il me dit, bon ben voilà, 17, je vais à Saint-Hermine, on fait l'ouverture du péage. Mais pourquoi tu y vas ? Ben, parce que tu comprends, le gazole, il a augmenté. Et là, moi, j'étais atterrée d'entendre pour le gazole. Parce que je me suis dit, non mais attends, avant le gazole, il y a des choses bien plus importantes à régler... À travailler, quoi. L'égalité économique, l'égalité sociale, l'égalité fiscale, la fraternité, enfin, retrouver les valeurs qui sont pour moi sont essentielles. Donc, pour les premiers jours, moi, je suis restée vraiment en observatrice, quoi. Et quand ça a pris une tournure plus ouverte vers ce que moi, il me semblait bon, j'ai décidé de me poser la question. Donc, j'ai participé à un premier rassemblement pacifique sur ma ville de Luçon. Où on est 70 personnes à peu près. Et petit à petit, je suis rentrée dans la réflexion. Il y a un groupe en Vendée qui a été créé de réflexion. Et là, je me suis trouvée comme un poisson dans l'eau. C'était mon élément, quoi. Voilà. Pour eux, on n'est rien. Ça fait quelques années que ça commence, mais les discours de M. Macron n'ont fait que accentuer tout ça. Les gueux, les sans-dents, les réfractaires gaulois. Enfin, comment ils peuvent parler de leur peuple ? Parce que moi, j'avais une grande idée pour moi du président. C'est-à-dire qu'il représente tout un peuple. Et pour moi, c'était quelqu'un qui aime son peuple. Il l'apprend avec ses qualités et ses défauts, mais il est là pour le défendre, son peuple. Comment il peut parler comme ça d'un peuple qu'il est censé représenter ?
Et vous, vous votiez avant ?
Je vote plus. Parce que je me dis que je suis contre un système. Et pour moi, voter, c'est rentrer dans ce système.
Qu'est-ce que ça a changé pour vous, ce mouvement ?
C'est le combat de ma vie. Voilà comment je le vois. C'est le combat de ma vie. Et si je ne l'aurais pas entamé, même si demain on doit perdre, entre guillemets, j'aurais le sentiment d'avoir fait tout ce qui était en ma capacité personnelle, parce que là je parle vraiment à mon nom, pour défendre mon prochain. Je n'ai pas de revendication personnelle à part faire un avenir meilleur pour nos enfants. Et pour tout le monde, pour les gens qui m'entourent, je ne revendique pas les riches doivent tomber, les pauvres doivent... Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que la lutte des classes doit s'arrêter. Tu es riche, tu es arrivé à avoir de l'argent, tant mieux, c'est très bien pour toi, mais c'est pas pour ça que tu dois accepter qu'il y ait des gens qui donnent leur vie à leur travail et leur santé et pour ne pas arriver à vivre au quotidien. C'est dramatique. Un être humain, il a besoin de... d'autres choses. Enfin, on ne peut pas se contenter d'obliger l'être humain. Alors, travail... paye tes factures et c'est bon, ta vie elle est faite. Non, ça s'arrête pas à ça. Un être humain c'est bien plus complexe que ça. On a besoin de relations sociales, on a besoin de sortir, on a besoin de rêver, on a besoin de beauté, oui, de bonheur, d'amour. Et quand on est occupé 24 sur 24 dans des préoccupations d'intendance et de finances, on ne peut plus fonctionner. Ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous détruit. C'est comme quand on dit oui, quand on veut, on peut. Alors j'ai eu longtemps ce discours, hein. Je l'ai eu jeune, je l'ai eu longtemps. Mais en fait, non, il y a des gens qui n'ont pas ils n'ont pas le « je peux ». Je veux, mais je peux pas, j'y arrive pas. C'est pas possible. Parce que c'est pas vrai. parce que c'est vraiment une hérésie, quoi.
Et par rapport à vos enfants, vous pensez à eux quand vous allez sur votre rond-point ?
Oui, et je pense à eux parce que j'ai peur pour eux, pour leur avenir, mais pas que leur avenir professionnel. Mais moi, ce qui m'inquiète, pour reparler d'écologie, c'est est-ce qu'ils auront la possibilité, ne serait-ce que de vivre dans le futur ? Est-ce qu'ils vont pouvoir survivre à l'humanité ? Parce que pour nous, tout est lié. Le lobbying, les multinationales, le gouvernement et sa nouvelle politique, et les problèmes écologiques, tout est lié. C'est tout ça qu'il faut travailler. C'est vraiment une refonte de la société, en fait, je pense.
Pour éveiller les gens, pour éveiller le monde, pour arriver à trouver des consensus qui peuvent... que tout le monde s'élève en même temps, en fait.
Donc, qui est pour cette proposition, lever le papier jaune ?
Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour vous après cette émission ?
Ben, ça a changé mon investissement politique déjà, parce que je refusais de voter, je refusais de m'investir dans notre système politique français. Et en fait, après l'émission que j'ai faite à Saint-Nazaire avec vous, j'ai été contactée par la liste municipale sans étiquette, ce qui était très important pour moi, et populaire de ma ville, de Luçon, qui m'a demandé de rentrer dans la liste pour faire partie de l'équipe communale.
Parce que c'était les élections municipales.
C'était les élections municipales de 2020, au mois de mars. Donc j'ai été contactée par Monsieur Arnaud Bouger, qui était tête de liste, qui m'avait entendue à la radio, qui avait beaucoup aimé mon discours, qui trouvait que ça correspondait à la ligne politique de son groupe. Et ben, j'ai accepté de suite, parce que bien que je ne veuille pas rentrer dans ce système-là à l'époque, je me suis dit autant commencer localement à essayer de faire changer les choses, à essayer de faire passer les idées que je voulais faire passer, en fait. Ça a été un grand étonnement et ça a été une très bonne surprise pour moi. Et ça correspondait, c'était vraiment dans la lignée de tout ce que j'avais déjà fait avant. C'était la suite logique, quelque part. Les gens nous félicitaient de notre engagement, sans étiquette, sans vraiment dans un élan populaire et de la défense de l'humain et de la nature. Il y avait vraiment un programme qui correspondait à tout ce que j'avais envie de faire. Et puis, j'étais pas la seule gilet jaune sur la liste. Et c'est important pour nous, parce qu'on a été tellement catégorisés dans tous les mauvais plans possibles que... Non, ça m'a vraiment enthousiasmée.
Maman ?
Oui, mon chéri ?
J'ai eu un appel.
J'ai eu un appel. Alors, attends. Non, c'est un message, chéri. J'ai quand même pris le temps d'en parler avec mon mari, parce que je me disais que ça allait avoir un impact forcément sur mon temps et qu'il fallait que j'en discute avec lui. Il m'a dit oui, mais je pense qu'il n'avait pas conscience du temps et de l'énergie que ça allait me prendre et donc que ça allait lever en temps et en énergie sur mon cocon familial.
Et vous avez
perdu. On a perdu. J'ai été très déçue parce que on avait tellement un programme enthousiasmant, j'étais tellement investie, Arnaud, tout le monde, toute l'équipe, on faisait vraiment ça pour les gens, en fait. Personnellement, ma vie a changé aussi. J'ai changé dans mon investissement familial, en fait. Je me suis autonomisée, j'ai pensé par moi-même. Et le temps que j'ai pris pour moi, pour l'extérieur, pour le mouvement, pour mon investissement, a impacté ma relation avec mon mari, puisque je n'étais plus à 100% consacrée à ma famille. Et qu'est-ce qui l'a dérangé ? C'est qu'il a commencé un mouvement, lui, et que moi, en fait... J'ai pris beaucoup d'ampleur et j'ai commencé à avoir de l'importance à l'extérieur de la maison, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça a été très dur à vivre. J'ai eu des contacts avec des gens, j'ai eu des contacts avec
une radio, que j'ai été suivie par des personnes plus haut placées, que j'ai eu des contacts pour rentrer dans les municipales, des réunions qui me prenaient énormément de temps. Je pense qu'il y a eu un peu de jalousie sur une question de position dans le couple, en fait, tout simplement. C'était lui l'homme de la maison. C'était lui qui vivait à l'extérieur, qui avait des relations extérieures importantes, alors que moi, j'étais la femme à la maison qui travaillait, qui s'occupait des enfants. Et là, c'était devenu l'inverse, parce que moi, quand j'étais pas là, c'était lui qui prenait le relais. Et c'était pas ce qu'il voulait. Alors, il disait qu'il était fier devant les gens, mais après, si ça revenait... Par exemple, j'ai eu l'occasion, on avait des gens qui venaient, qui me disaient « Oh, je t'en ai vu dans l'Humanité, machin et tout ». Ça, s'il y avait trop de répercussions, comme on disait trop, ça l'énervait, en fait. C'était « Oh, ben c'est bon, on va pas en parler 10 ans, c'est bon, ben ouais, c'est bien, mais bon, c'est bon, il n'y a rien d'exceptionnel. »
Alors que pour vous, c'était important?
Ben, oui, c'était important. En plus, l'humain, moi, je l'ai toujours vu chez mes grands-parents, chez mes arrière-grands-parents, qui lisaient ça toute leur vie. Moi, la première chose que j'ai pensé quand j'ai ouvert l'humain, je pensais à mon arrière-grand-père dans sa tombe, mon grand-père, qui devait se dire « Oh, ma petite fille, elle est passée dans l'humain, quoi. » Je sais qu'ils auraient été extrêmement fiers de moi. Pour quelqu'un comme moi qui n'a rien de particulier, c'était énorme. C'était énorme. J'avais une image de moi, un manque de confiance en moi, total. Une dévalorisation totale. Je me sentais capable de faire que des choses basiques, même dans le travail. Je veux dire, j'ai jamais envisagé de reprendre mes études parce que je me disais, j'en suis pas capable. Je me trouvais capable que de faire un travail, tout ce qu'il y a de plus basique, qui ne demande aucune capacité intellectuelle particulière. Et c'est tout. C'est tout. Et c'est les gens qui m'ont valorisé. C'est les gens qui m'ont dit, mais attends, Sophie... T'en as dans la tête, quoi. Vas-y, affirme-toi, dis ce que tu penses, dis ce que tu veux. Affirme-toi devant le monde. Affirme-toi. Et c'est cette affirmation qui m'a fait avancer. Et je crois que... Il a pris ça comme une prise de pouvoir, je pense, dans le couple. Parce que j'ai ouvert ma parole dans le couple aussi derrière. C'est-à-dire ce que je ne voulais plus, je l'ai exprimé. J'ai vu d'une autre manière ma relation de couple. Je suis aussi quelqu'un qui a des idées, qui a des positions, qui a des envies personnelles. Et ça, je l'avais oublié, en fait. C'est le mouvement qui a déclenché tout ça. Je me suis émancipée politiquement, humainement, en tant que femme, et même en tant que mère. J'ai vraiment... Je dis pas que j'ai changé, non. Je pense que c'est l'inverse. Je me suis trouvée, moi. À me trouver des qualités, à me trouver des capacités insoupçonnées. Cette capacité à rassembler les gens, à parler en public, à débattre, à accepter les positions des autres, même si j'étais radicalement opposée à leur point de vue, à convaincre, à argumenter, à emmener les gens avec nous. Mais j'ai trouvé ma place dans ce mouvement. Attends, Sandro, j'éteins ton jeu parce que du coup, j'entends pas ce qu'elle me dit, la dame. D'accord ?
Je peux prendre un gâteau ? J'ai faim, maman.
On a partagé des choses qui nous ont rapprochés. Quand vous allez en manifestation, c'est tout bête, hein, et que vous avez en face de vous de la violence, vous vous rapprochez les uns les autres. Je me suis dit, comment ça se fait qu'à l'extérieur, j'arrive à m'exprimer, à m'investir, à m'affirmer, alors que chez moi, j'en étais incapable. Les discussions que j'ai eues avec d'autres femmes gilets jaunes, bien sûr, m'ont amené aussi à me poser des questions sur ma vie personnelle, sur ma vie de couple, sur ma vie de mère. Et c'est justement d'échanger avec plusieurs femmes qui m'a amené, mais même avec des hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui me disaient, mais attends, Sophie, tu as quand même le droit de faire garder tes enfants par ton mari pour aller dans une réunion, rentrer à minuit. Il n'y a rien d'anormal. Il n'y a rien d'anormal. Parce que moi, j'en arrivais à culpabiliser parce que derrière, j'avais la remarque. T'as vu l'heure à quelle tu rentres? Quand même, il est tard. Mais je ne suis pas allée m'amuser, je ne suis pas allée danser, je ne suis pas allée passer 15 heures au bar. Non, j'étais dans des discussions politiques, des établissements de programmes. Ça prenait énormément de temps. Et là, moi, je me suis dit, comment je me positionne, qu'est-ce que je veux moi. Le temps que je prenais pour moi et pour tout ça ne lui convenait pas. C'était des disputes permanentes. J'avais pas envie de faire de compromis sur ça, surtout que j'estimais que je faisais rien de mal et que je le faisais pour nous aussi, pour notre famille aussi. Pour moi, c'était lié à notre vie, à ce qu'on voulait pour notre famille, à ce qu'on voulait pour notre avenir. Donc c'était aussi un combat pour ma famille. Donc je voyais pas pourquoi il prenait ça pour un abandon. Je pense que c'est pas l'investissement politique qui a posé problème, c'est l'émancipation qui a suivi derrière. Je sais pas comment dire. Je pense que j'aurais aimé encore plus d'encouragement, aimé qu'il me pousse à me dire vas-y, vas-y. Mais non, il me disait vas-y, mais en même temps il me retirait en arrière. En même temps il me mettait des limitations qu'il savait que c'était pas compatible avec mon engagement. Donc à un moment j'ai été tiraillée. Donc c'était plus possible. Les derniers mois, je m'étais mis en position potiche, c'est-à-dire que je ne m'exprimais plus du tout, pour éviter le conflit, pour éviter la jalousie, parce que dès que j'avais un contact intellectuel un peu poussé avec un homme, parce qu'on échangeait énormément, il y avait soupçon d'autre chose en fait, alors que c'était pas du tout ça. Je m'en rends compte maintenant, mais je m'en rendais pas compte. J'avais toujours une veste sur moi et mon sac. J'ai un tout petit sac. J'avais toujours mon sac en bandoulière autour de moi, même dans la maison. Et donc, avec le recul, je me dis, j'étais toujours sur le départ. J'étais là physiquement, je faisais ce qu'il fallait faire, mais dans ma tête, j'étais déjà ailleurs. Et puis la situation s'est dégradée très très vite derrière.
Et ça a mené jusqu'à où?
Jusqu'à la violence verbale. Parfois physique, mais rien de... Je veux dire, il m'a jamais mis sur le carreau. Hein, mais il y a eu des gifles qui sont partis, il y a eu des trucs comme ça. Et ça a été le point de non-retour. On a eu une dernière grosse dispute avec mon mari, mais vraiment une énorme dispute. Je rentrerai pas dans les détails. Et là, je me suis dit, on ne trouvera jamais de compromis. C'est pas possible. Et... Je lui ai demandé d'aller me reposer quelques temps parce que j'étais en burn-out complet. Hein. Il y a trop de choses qui tournent dans la tête. Alors j'avais déjà une charge mentale énorme. Je suis quand même une mère de 5 enfants. J'en ai pas qu'un. Alors oui, le mouvement, la fatigue psychologique du mouvement s'est mis par-dessus.
Mais la fatigue aussi.
Physique aussi, parce que les manifs tous les week-ends, travailler jusqu'à 6h20 du matin, partir à l'Assemblée des Assemblées pendant 72 heures... Tenir des ronds-points le week-end, faire des actions. On a monté des mâts avec des gilets jaunes sur le bord de la plage en Vendée. Enfin, ça prend énormément d'énergie, mais c'était positif. Moi, je trouvais que ça m'apportait des choses. Donc, je n'ai pas pris ça comme de la perte sèche. Je perdais d'un côté d'énergie, mais ça m'apportait beaucoup de richesses intérieures. Tandis que la charge mentale, elle vous fait perdre de l'énergie, mais elle ne vous apporte rien derrière. Moi, je pense que ma position de femme a joué dans mon burn-out. Parce que les hommes, ils vont en manif. Madame reste à la maison, s'occupe des enfants, elle gère le quotidien, elle gère tout ce qu'il y a autour du mouvement. Une femme gilet jaune, quand elle s'investit dans les réunions, elle a quand même tout le reste à gérer derrière. C'est tout ce qui fait la différence. Je pense qu'à ce moment-là, je pensais que mon mari allait me soutenir, allait être un roc. Et en fait, non. Je me suis rendu compte que non. Je pouvais pas compter sur lui. Et que j'étais seule. Et donc, je lui ai demandé à aller me reposer chez une amie quelque temps. Et il m'a demandé de signer un document comme quoi je partais, en me disant, t'inquiète pas, c'est pour les enfants, pour faire les papiers. Et en fait, j'ai signé un abandon de domicile. Je lui faisais confiance. Je pensais pas que ça allait jouer contre moi après. Mais je savais aussi que ce papier, si je le signais pas, il me laisserait pas sortir de la maison sans un éclat de violence. Et je pouvais plus, j'y arrivais plus. J'étais arrivée au maximum de ce que je pouvais supporter. Voilà. Je suis partie et dans les semaines qui ont suivi, j'ai plus jamais pu rentrer chez moi. Jamais plus. Donc j'ai vu mes enfants très peu en 5 mois. 4-5 fois parce que il fallait que ça corresponde à son planning, à ses disponibilités. Moi, je vivais chez une amie, je ne pouvais pas les prendre. Je dormais moi-même sur un canapé. C'est une femme qui avait une vie de famille, des responsabilités. Je ne pouvais pas imposer mes enfants. Maxime avait 14 ans, Lali 10 ans, Sandro avait pas 5 ans et Selena avait pas 6 ans. Donc j'ai été coupée du jour au lendemain de mes enfants et là ça a été la descente aux enfers. J'avais plus rien, plus de maison, plus de biens personnels et surtout plus mes enfants. J'ai cru que j'allais en mourir. Mais voilà, à ce moment-là, comme je dis, la solidarité a fait son effet. J'ai eu des gens qui m'ont soutenue. Bon, j'ai perdu 15 kilos. Bon, ça m'a pas fait de mal. J'ai perdu 15 kilos, mais j'ai été obligée de retourner dans le sud parce que j'avais plus de toit sur la tête et que je pouvais pas rester indéfiniment chez mon ami. Je suis allée chez mes parents. Comment on fait quand, dans ce genre de situation, on retourne chez papa et maman? J'ai pris mes enfants, je suis retournée chez mes parents et j'ai redémarré. Enfin, redémarré, ça a été un petit peu dur, ça a été un petit peu compliqué, mais petit à petit, je me suis réinstallée ici, j'ai retrouvé mes marques petit à petit. Et là, je viens d'emménager dans un logement qui va être normalement le définitif, puisque ça y est, il est à moi. Depuis hier, ouais.
Vous êtes contente?
Oui. Oui, parce que c'est un début de nouvelle vie, en fait. Elle a commencé ma nouvelle vie avant, mais là, ça y est, je suis posée, je suis plus dans le provisoire. C'est important d'avoir un endroit où tu sais que voilà, tu es ancré, quoi. Je regrette pas le mouvement des Gilets jaunes. Ça reste le plus beau combat de ma vie, comme je l'ai dit sur l'émission. Je regrette pas mon éveil, tout ce que ça a éveillé en moi et mes relations avec les autres. Oui, c'est pas un regret, c'est juste une déception que j'en ai perdu ma vie de famille, parce que pour moi c'était vraiment très important. Je suis partagée entre cette fierté de m'être trouvée, d'avoir trouvé ce que je voulais vraiment moi, de m'être émancipée, et en même temps j'en ai pris un lourd tribut. Pour moi c'est un très lourd tribut que j'ai payé.
As soon as you're born, they make you feel small. By giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero. Something to be. A working class hero is something to be. But they hurt you at home and they hate you at school. They hate you if you're clever and they despise a fool. Follow the rules, but a working class hero is something to be. But a working class hero is something to be. One they've taught you that's killed you for 20 odd years. Then they expect you to pick your career. Junior, so full of fear. But a working class hero is something to be. But a working class hero is something to be. And now, I can keep you tapped with religion and sex and TV. And you think you're so clever and classless and free. But you're so fucking peasants as far as I can see. We'll be right back.
own friend to pay.
Alors, est-ce que tu as quelques commentaires à faire sur...
C'est complètement génial. Bah, je trouve ça vraiment stupéfiant. C'est chouette, vraiment très chouette. C'est fait partie du fait pourquoi moi je suis mouvementiste. C'est dans les mouvements sociaux que les gens s'épanouissent, c'est clair, et rompent avec leur train-train quotidien.
Et alors, je pense que des cas comme celui de Sophie, il y en a eu des centaines,
d'autres,
des dizaines et des centaines à l'occasion de ce long mouvement ce qu'on a appelé des gilets jaunes. Alors, malheureusement, il y en a eu aussi pour lesquels ça a été beaucoup plus dur, à la fois quand il y a eu l'effondrement de ce mouvement et quelque part la fin du mouvement, l'impossibilité de décrocher une victoire globale. Hein. On sait qu'il y a eu des suicides, des gens qui sont tombés dans une déprime ou un burn-out, parce que en fait la finalité de ce mouvement, c'était d'être en capacité de créer des conditions révolutionnaires, quoi. Hein. Faut employer les grands mots. Et puis il y a surtout, et ça c'est un point sur lequel on est revenu à de nombreuses reprises, eu la répression, oui. La répression judiciaire, hein, la répression policière. La répression au travail, hein, aussi, et puis par l'intermédiaire de l'entourage. Hein, il y a dû avoir nombre de femmes, puisque c'est un mouvement dans lequel il y a eu beaucoup de femmes qui ont dû se faire rappeler à l'ordre patriarcal à la maison. Et Sophie, elle a eu la force et la possibilité de sortir de cet ordre patriarcal. J'espère que pour d'autres ça a été aussi possible. Et puis oui, il y a eu la répression puisque faut le rappeler, hein, il y a eu des dizaines de blessés, dont une trentaine des borniers. Et aujourd'hui, trois ans après, on commence à avoir un peu une vision, une visibilité sur les suites judiciaires de ces mutilations et de ces violences policières, et c'est sur quoi on voulait revenir là, puisqu'il commence à y avoir des procès, et malheureusement, enfin c'est pas étonnant, quoi, hein, on voit que il y a évidemment un blanc-seing qui est donné à la police. Alors déjà il y a le temps, hein, puisqu'il faut des années avant de pouvoir passer en procès, hein. c'est pas comme les manifestants, hein, c'est pas en comparution immédiate et tu dors en prison à la fin. Là c'est faut passer par tout un tas de choses. Il y a eu deux cas, hein, qui sont sortis ces derniers temps et qui ont attiré notre attention. Alors le premier, ça a eu lieu au mois de décembre, hein, où il y avait un procès d'assises. C'est assez rare pour être souligné. Ce procès d'assises, il concernait le tir d'un CRS sur un syndicaliste qui s'appelle Laurent Théron, qui a perdu son œil. Laurent est secrétaire hospitalier et quitté une manifestation, et donc il a pris donc une grenade, hein, GMD, donc c'est celle avec les petits plots. Ouais. Dans la truc.
Une grenade qui maintenant est interdite, mais enfin, elle a été remplacée par une autre qui fait moins mal, mais qui fait encore mal.
Alors, hein, déjà, à l'époque, elle était réglementée, et ce CRS, donc, Alexandre Mathieu, qui avait fait, avant d'être CRS, 20 ans de bac, ça vous donne une idée du pedigree, n'était pas autorisé à utiliser ce type de munitions. Ça faisait 15 jours qu'il était CRS, et il a donc subtilisé cette munition pour l'utiliser à son profit personnel, à son amusement personnel, alors qu'il n'en avait ni le droit, ni que sa compagnie n'était habilitée. Enfin bon, ce cas est véritablement exemplaire. Là, on a toutes les choses. Eh bien, Ça a été un grand moment de guignolade de policière où on a vu des individus qui pratiquent du sport, qui sont en meute, défiler à la barre, nous faire part de leurs craintes devant les manifestants, devant le climat qu'ils avaient vécu, la peur de mourir qu'ils avaient eu, d'avoir des orphelins, de laisser des orphelins. Et que donc il était nécessaire de tirer sur un individu qui repartait les mains dans les poches chez lui. Ça a été vraiment du grand n'importe quoi. Et comme vous pouvez vous en douter, Alexandre Mathieu a été définitivement acquitté malgré des faits avérés, des vidéos, une victime pour le coup au profil irréprochable, un contexte sans aucun danger, une enquête prouvant le crime et l'usage d'une grenade en dehors de tout cadre réglementaire. Donc voilà, voilà qui fait une jurisprudence. Alors évidemment, hein, pour ceux qui pensaient que la justice a certes, c'est un procès d'assises, donc seul le procureur peut faire appel. Bien évidemment, le procureur ne le fait pas. Il avait requis de 2 à 4 ans avec sursis. Le flic a été définitivement acquitté et Laurent en fait ne demandait rien hormis la révocation définitive du policier de la CRS quoi. Voilà donc ce type de truc. Et puis il y en a eu une autre, hein, une très très belle, hein, aussi celle-là. C'est un non-lieu qui a été donné par un requis pardon par le parquet général devant une policière, pour une policière qui avait été accusée d'avoir éborgné par un tir de LBD un gilet jaune. Donc policière de la BAC, hein, qui elle, alors ça aussi, hein, pareil, hein, c'est très très beau. Hein, donc les caméras du LBD ont été effacées, on ne sait pas pourquoi. Le chef de groupe de la BAC n'est pas capable de dire qui a tiré ce jour-là. Donc c'est l'enquête qui a déterminé que c'était Marine V, hein, qui devait être considérée comme l'auteur du tir. Et cette Marine V, elle explique que elle sait pas du tout ce qu'elle a fait, parce que ce jour-là elle a tellement tiré qu'elle se souvient pas si elle a tiré sur le monsieur ou pas quoi, hein. Donc vous voyez quand même le niveau intellectuel des gens à qui on confie des armes. Non létal, hein, évidemment. Comme d'habitude, hein, on a eu une guignolade de Laurent Franklin Liénard, hein, l'avocat habituel des flics. Alors c'est même pas drôle, parce qu'en plus c'est avec notre pognon, hein, c'est pas avec le pognon des flics, puisque les agents de l'État sont comment dire pris en charge par le trésor public, hein. Et donc voilà, un non-lieu, on attend le rendu, mais il est fort probable que
le non-lieu, je crois qu'il est terminé en cause.
Alors, au niveau judiciaire. Je te donne le terme juridique exact. La policière avait bénéficié d'un non-lieu par le parquet général, mais la chambre de l'instruction,
c'est ça,
renvoie sans motivation au juge d'instruction pour dire bon voilà, moi nous on a instruit, on n'est pas capable de savoir qui a tiré, on n'a pas d'éléments, on n'a pas de trucs, on n'a pas de caméra, on n'a pas de témoignages, donc on vous renvoie à la chambre d'instruction et vous décidez ce que vous voulez. Et bien évidemment le parquet lui demande un non-lieu, donc on verra bien ce qu'il en sort, quoi,
qu'il en sort, ouais.
Alors tu as des chiffres, parce que
voilà,
il y a eu quand même un peu de boulot qui a été fait,
par des journalistes, entre autres
Politis, hein.
Par les journalistes de Politis, qui ont mis des mois pour avoir des chiffres du ministère de la Justice, des chiffres inédits véritablement, pour le traitement judiciaire des violences policières de 2016 à 2021. Alors je ne vais pas vous donner les chiffres, puisque à la radio c'est vraiment chiant. Il y avait 4 cases, les mises en cause. Alors la mise en cause, on peut constater qu'en 2016, il y en a eu 534, et en 2021, il y en avait 836. D'accord ? Les poursuivables, alors
Il y en avait 177 en 2016 et 221 en 2021.
Alors, je te coupe la parole parce que sur ces 836 personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est que ceux qui ont été identifiés. Donc, les flics identifiés.
Tout à fait.
Donc, le chiffre exact de violences policières, autour des cas de plaintes pour violences policières, il reste totalement inconnu.
Totalement inconnu. Alors, les poursuivables, il y a les poursuivis après. Alors, quelle est la différence entre les poursuivables et les poursuivis? Ceux qui sont poursuivables, eh bien, après, leur dossier est traité par le parquet. Et dans certains cas, il y a un classement sans suite pour inopportunité de la poursuite ou alors une alternance à la poursuite, une alternative, excusez-moi, à la poursuite ou une composition pénale. Il y a aussi la poursuite possible. Alors, pour 2021, sur les 221 poursuivables, il y en a eu 146 qui ont été poursuivis.
Je précise encore, donc ça veut dire que presque 5 policiers sur 6 qui sont identifiés et mis en cause ne sont pas poursuivis, classement sans suite, et 3 policiers sur 4 qui sont poursuivis bénéficient cette alternative aux poursuites, quoi. Donc, pour donner un rapport avec le traitement habituel des quidam, on est à 3 fois plus par rapport à la population française. C'est-à-dire que si vous vous êtes mis en cause dans une affaire de violence volontaire, si vous êtes policier, vous bénéficiez 3 fois plus de chances, 1, d'avoir un classement sans suite, 2, d'avoir une alternative aux poursuites.
3, d'après le chiffre que je connais, qui est donné par Politis, c'est 2 seulement. Hein.
Ils ont 2 pris, sur 4
ils ont pris l'année 2019.
Ah oui, 2 fois plus, ok.
Hein, l'année 2019, 32% des mises en cause des personnes en général... Hein, qui ont été poursuivis, 32%, alors qu'au niveau des flics, matons, etc., il n'y en a que 16%. C'est-à-dire que ça fait 2 fois moins. Hein, alors que normalement, quand on est PDAP, c'est-à-dire personne dépositaire de l'autorité publique, quand on fait des violences avec ce statut, normalement, on devrait être amené à en prendre plus. Puisque on est dépositaire d'une autorité publique. Là, non vraiment, ils sont protégés, on peut le dire. Alors, il y a d'autres chiffres qu'on peut donner. Par comparaison, en 2019, dans la population générale, il y a 33% des auteurs mis en cause pour violences volontaires qui ont été placés non poursuivables. Alors qu'il y a un taux similaire de 33% de l'année 2021, toutes infractions confondues. Donc les PDAP, c'est sûr, sont 2 fois plus non poursuivables que la population générale. 2 fois et demi non poursuivables.
Alors que ce sont des gens qui sont armés,
oui,
qui sont censés représenter la loi, qui sont censés maîtriser... maîtriser des techniques et qui doivent notamment répondre de leurs actes en toutes circonstances.
Tout à fait. Tout à fait. Alors bon, je crois qu'il faut faire attention aussi au niveau des condamnés, puisque les condamnés, en 2021, par exemple, il y en a 87, mais on s'aperçoit que ceux qui ont été condamnés en 2021, leur procès n'était pas forcément terminé. Puisqu'après, il y a l'appel, tout ça, donc faut faire attention. Mais néanmoins, le chiffre des condamnés sont ridicules. Hein. C'est 10% hein, en 2016, c'est aussi 10% en 2017, 2018, 2019. En 2020, ça tombe, puisqu'il y a 752 mises en cause, et il n'y en a que 44 qui seront condamnés. Pour 2021, je vous ai dit, il faut faire attention, c'est remonté à 10%, mais il faut faire attention puisque les affaires ne sont pas terminées. Il y en a encore qui vont essayer, qui vont réussir à glaner quelque chose comme
non poursuivable.
C'est ça. Donc, pour résumer, donc, lorsque les auteurs sont identifiés, donc déjà, hein, on l'a dit, donc la part de classement sans suite représente près de 80%.
Ouais.
Donc, c'est assez simple hein, pour faire un classement sans suite. Hein, une enquête bâclée qui conclut rien, un motif juridique bidon, mal ajusté, mal fagoté, ou des ordres de la hiérarchie judiciaire pour enterrer l'affaire. Et sur ce... qui sont considérés comme poursuivables, donc il y a un quart des coupables, ou en tout cas un quart des mises en cause, qui sont blanchis discrètement par l'intermédiaire de l'alternative aux poursuites. Donc l'alternative aux poursuites, c'est soit un simple rappel des faits, une obligation d'accomplir un stage, etc.
C'est ça,
donc c'est négocié entre le procureur et le mis en
et
cause,
la personne, ouais.
Et évidemment la victime ne joue absolument aucun rôle. Donc le message, il est clair. Si vous êtes quelqu'un de violent, qui a propension à exercer des violences volontaires sur les individus, ne faites pas ça en dehors de tout cadre légal. Faites ça en portant un uniforme, vous aurez beaucoup plus de chances de vous en tirer. Hein, ça, c'est sûr. Hein, c'est clair, vous aurez beaucoup, beaucoup plus de chances de vous en tirer. Et il faut voir aussi l'autre côté. On a clairement une assurance qui est donnée par l'État à ses forces de l'ordre. Le deal étant, on peut évidemment tout à fait émettre l'hypothèse que vous pouvez y aller, vous pouvez cogner. Si vous faites ça à peu près correctement, normalement, vous devriez pas
être emmerdé.
Donc, voilà. On voit qu'est-ce que ça peut, on peut imaginer qu'est-ce que ça peut créer dans la mentalité du flic de base, quoi, qui se trouve pris à la fois dans une impunité générale, puisqu'il voit ses petits copains sortir comme des oies blanches d'affaires toutes plus dégueulasses les unes que les autres, et bien évidemment
ouais.
Cette on voit que tout à fait lorsque les flics disaient que le problème de la police c'était la justice, ben nous
justement je voulais parler là-dessus, ouais. Quand on sait que ce que dit le syndicat Alliance, puisqu'ils disent effectivement le problème de la police c'est la justice, on regarde les chiffres qui sont officiels, qui sont du ministère de la justice, on s'aperçoit qu'ils sont bien couverts par la justice, leur violence. Bon, voilà, alors je crois que on aura peut-être l'occasion d'y revenir.
Ouais, enfin bon, écoute, tout ça, ça n'annonce rien de beau pour des éventuels conflits sociaux qui viendraient à se durcir, hein, puisque les chiens de garde du pouvoir sont, prêts, sont dans les starting blocks. On voit d'ailleurs que ça a un petit peu monté hein, ces derniers temps. C'est beaucoup moins sympathique qu'au début. Ça a tendance à se tendre. Et puis, on voit aussi combien ce pouvoir ne tient plus que par vraiment grand-chose, quoi. C'est à la fois un espèce de mélange entre une arrogance, une violence de classe hyper assumée, hyper forte, un isolement et une déconnexion de la population et de la réalité sociale qui est vraiment qui a rarement été aussi importante, et en même temps une capacité répressive, matérielle, réelle, tangible, donc dans les corps et dans les esprits, qui n'annonce rien de bon pour ce qui suit, sauf si évidemment nous sommes suffisamment assez nombreux et assez forts pour pouvoir résister et créer un rapport de force, en notre faveur. Voilà. C'est un peu pessimiste comme conclusion, mais au moins quand on sait sur les bases sur lesquelles on part, on n'est pas surpris après. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a, à mon avis, été très très important pour les Gilets jaunes, c'est ouais. de se rendre compte de la violence du système, et il y a une partie des milliers de personnes à qui on ne pourra plus jamais raconter la fable du bon policier, quoi, en tous les cas. Ça, c'est sûr que il y a une perte de confiance et une perte de crédibilité de la part du système d'une manière générale, et des règles du jeu social en particulier. Alors vraiment, ce qu'on peut espérer, c'est que tous ces gens qui sont passés par différents stades et par différents moments de mobilisation, ils puissent à un moment retrouver le plaisir, retrouver la joie qui a été évoquée par Sophie dans la première demi-heure, en se mettant en grève, ne serait-ce que pour un ou deux jours, et que de nouveau cette alchimie du mouvement social, l'alchimie du mouvement, ouais, prenne, et que chacun et chacune voit qu'on a beaucoup plus à gagner en sortant dehors, en arrêtant de souffrir tout seul, que évidemment on ne sait pas à quoi on s'attend, mais que on ne peut avoir que des bonnes surprises. Alors il nous reste une minute. Notre technicien préféré nous a abandonnés, donc on ne sait pas comment on va finir l'émission, mais c'est pas grave. Ah, y a un deuxième technicien qui arrive. On va juste dire que toutes ces choses dont on vous parle régulièrement, on peut les retrouver dans notre magnifique journal Courant Alternatif, dont vous pouvez recevoir un numéro si ça vous intéresse sur simple demande. Il suffit pour ça d'envoyer un mail, et là je me tourne vers le camarade Cognac Jet. Donc l'adresse mail, c'est OC Libertaire. Non,
je sais pas.
Tu sais pas Ah non, toi, t'as que la boîte postale, toi.
Non, mais c'est pas grave. De toute façon, il suffit d'aller voir sur notre site.
Voilà.
Célibertaire.l'autre.net.
Il y a même le courrier qui marche, boîte postale 81 12 13.
Ouais. Pas de problème.
Allez, on se retrouve. À la semaine prochaine pour des nouvelles aventures.
Ah. Il y a un blanc.
N'ayez pas peur, hein, c'est pas votre poste qui déconne, c'est notre technicien qui n'a pas retiré ses moufles, puisque malgré la hausse de la température, il fait encore froid, mais le générique ne devrait pas tarder à sortir.
Ah, ça y est.
Ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était rigolo.